RJB Info. Régis Maria.
Bonsoir, pas de surprise ce dimanche pour l'élection à la préfecture des arrondissements administratifs du Jura bernois et de Bienne. Les deux sortantes repartent pour 4 ans. Pour le Jura bernois, la PLR Stéphanie Niederhauser, qui briguait un troisième mandat, a obtenu 9366 voix contre 493 pour son concurrent Bruno Dupont, candidat du controversé Rassemblement Roman Patriote et domicilié à Lausanne. Stéphanie Niederhauser nous livre son analyse sur cette victoire sans appel.
Je pense que les gens ont voté, alors une grosse partie pour moi, mais aussi peut-être certains par peur d'avoir trop de voix, pour une, enfin de donner trop d'importance à un parti qui est quand même très 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 à droite. Le fait qu'il y ait aussi eu cet article dans 24 heures qui a démontré que ce monsieur avait eu des condamnations a peut-être aussi aidé.
De son côté, Romy Stäbler a elle aussi été réélue sans problème au poste de préfète de l'arrondissement administratif de Bienne. Sur un total de 14 744 bulletins de vote dépouillés, la PLR sortante obtient 13 504 voix. Les deux autres candidats en lice pour l'élection, à savoir Chala Hacher sans étiquette et Loïc Besançon du Rassemblement Roman Patriote, ont obtenu respectivement 659 et 157 voix. Une satisfaction pour Romy Stäbler.
Heureuse et aussi un peu fière. Je me réjouis pour être encore 4 ans comme préfète de mon arrondissement à Bienne. Maintenant, je peux me concentrer sur l'essentiel.
À noter encore que la participation à ces élections s'est élevée à 28,2% pour le Jura bernois et 23% pour Bienne. Les ayants droit au vote biennois ont dit oui cet après-midi par 63,7% au crédit d'engagement pour la construction d'un nouveau centre de recyclage. Pour rappel, le conseil municipal soumettait un crédit de 15,46 millions de francs, préalablement adopté par le Parlement en février dernier. Les travaux du nouveau centre de recyclage pourront débuter à l'automne 2026. L'ouverture est prévue un an plus tard. Et puis à Moutier, les prévotoises et prévotois disent également oui par 626 voix contre 535 à un investissement de 2,5 millions de francs pour un projet de chauffage à distance. Les citoyens devaient se prononcer sur la participation de la commune à la société anonyme de gestion constituée en 2020 avec l'entreprise EBL. A noter que cet argent ne sera dépensé que si le projet voit bel et bien le jour, puisque EBL est toujours en pleine prospection de clients potentiels. Le début de l'exploitation est prévu pour l'hiver 2029-2030. On votait également dans le Jura. Parmi les objets qui concernent de près ou de loin le Jura bernois, on notera ce refus net et massif à Courandelin où le projet de traversée du village ne verra pas le jour comme prévu. La population a nettement rejeté aujourd'hui le crédit de 7,2 millions de francs qui visait à améliorer la sécurité sur la route cantonale tout en favorisant la mobilité douce et les espaces verts. Refus à 67,4%, soit 704 non pour 340 oui. Les autorités communales de Courandelin n'ont désormais plus la main sur ce dossier puisque la route est cantonale. L'État jurassien pourrait lancer seul certains travaux, notamment en lien avec le revêtement de la chaussée. Enfin, le canton du Jura pourra temporairement déroger aux freins à l'endettement en lien avec l'accueil de la ville de Moutier. La population jurassienne a accepté aujourd'hui à 70,1% la modification de la constitution allant en ce sens. Pour rappel, l'objectif est d'exclure du calcul du frein à l'endettement deux effets financiers extraordinaires, les investissements de 10 millions de francs pour les bâtiments repris au canton de Bernay, le manque à gagner de la péréquation financière fédérale estimée à 65 millions. Le soleil a brillé sur la solidarité ce dimanche à Tramelan. La 12e édition de la manifestation CIP Solidaire se tenait toute la journée au Centre interrégional de perfectionnement. 16 associations sont venues présenter au public leurs activités dans le cadre de cette QV 2025. Un repas interculturel a également été proposé avec des mets colombiens, ukrainiens, afghans, éthiopiens ou encore camerounais. À leur dérangement, Mathieu Chénier, membre du comité d'organisation de CIP Solidaire, tire un bilan plutôt réjouissant.
C'est un bilan très positif. Déjà parce qu'il faisait beau, le soleil, on a pu aussi utiliser les extérieurs. Il y a eu beaucoup de monde, notamment au repas, et les échanges interculturels étaient très intenses, c'était bien, oui.
Est-ce que vous avez un chiffre à articuler en termes de fréquentation ?
Ah, je pense qu'on est dans les 300 à 400 personnes, hein, un petit peu dans une moyenne supérieure que dans les années supérieures, oui.
Il y avait cette année 16 associations présentes. Qu'est-ce qu'elles recherchent avant tout à travers votre manifestation ? Est-ce que c'est simplement une vitrine ou bien c'est réellement la recherche d'un contact avec les gens, être proactif dans la recherche de dons, de nouveaux bénévoles par exemple ?
Alors c'est clair qu'une association est toujours en recherche de bénévoles. parole. Elle a besoin d'être visible aussi, donc de se montrer. Et là, c'est une occasion avec un public qui sont accessibles et intéressés par le sujet. Et puis, ce qui est intéressant aussi pour elle, surtout, c'est de pouvoir discuter entre associations, avoir des contacts, pouvoir échanger sur la manière dont elle travaille. Car il y a des petites, il y a des grandes, il y en a qui ont une grande expérience, il y en a qui ont peut-être un petit début. Donc, il y a des différences assez importantes. Et en échangeant entre elles, elles arrivent à trouver des trucs pour mieux fonctionner.
C'était Mathieu Chénier, membre du comité d'organisation de CIP Solidaire, qui revenait donc sur cette QV 2025, cette 12e édition qui s'est tenue aujourd'hui à Tramelan. À noter que les organisateurs envisagent déjà une 13e édition l'an prochain. Bilan positif également pour la manifestation Brune Suisse locale, une journée pour découvrir la race bovine Brune Suisse. Au total, environ 500 personnes ont pris part à cette manifestation hier. Elle se tenait pour la première fois en Suisse romande, au-dessus de Perfit, sur l'exploitation de la famille Colli, qui compte une quarantaine de vaches Brune Suisse. Masta Dinguerie, c'est le nom d'une soirée qui était organisée hier à la Société La Moutier. Particulièrement, une particularité, elle était réservée aux adolescents de 12 à 15 ans et a été entièrement mise sur pied par les jeunes du CEJAC, le service de la jeunesse et des actions communautaires. L'occasion de faire la fête, mais aussi de montrer aux jeunes par l'exemple qu'on peut s'amuser sans consommer d'alcool, comme nous l'explique Kendressa Latifi, présente durant la soirée en tant que psychologue.
Ce qui est important, c'est qu'effectivement, déjà, c'est par et pour les jeunes. Donc, c'est en fait une façon de faire aussi de la prévention par les pairs que de finalement proposer une soirée organisée par des gens qui pourraient se situer dans la même tranche d'âge. Et donc le message, il est là aussi, c'est qu'en fait il y a quelque chose de l'exemplarité, d'un soutien par les pairs qui se fait aussi à travers une soirée comme ça, ce qui est aussi complètement complémentaire à d'autres approches qui existent et qui sont tout aussi importantes en termes de prévention d'alcool.
À noter encore qu'une centaine d'enfants et d'adolescents ont participé à cette première édition de la Masta Dinguerie à Moutier. Les organisateurs envisagent déjà la tenue d'une deuxième édition dans le futur. Record de fréquentation battu pour la fête de la danse 2025. Cette 20e édition a rassemblé près de 102 000 participants, faisant vibrer 44 villes dans tout le pays, dont 20 en Suisse romande. Dans la région Abienne et de Lémont, environ un millier de personnes ont célébré la danse et participé aux spectacles, performances, cours, flash mob, battle ou restitution scolaire. Le rendez-vous pour la prochaine édition est déjà fixé du 8 au 10 mai 2026. Vous retrouvez une galerie photo sur notre site rjb.ch. Après l'euphorie de la Coupe, tout s'est soudainement effondré pour le FC Bienne. Les Célandais ont vu leurs espoirs de monter en Challenge League définitivement s'envoler hier, après leur défaite 3-0 chez la réserve de Bâle. Dans le même temps, Rapperswil et Krienz se l'ont emporté aux deux premières places. Premier du classement il y a encore 10 jours, le FC Bienne s'est écroulé sur les deux derniers matchs après avoir pourtant dominé une bonne partie du championnat. Malgré l'épopée en Coupe de Suisse, le directeur sportif célandais Oliver Tessiger n'a pas hésité à parler d'échec hier soir après la rencontre.
Oui, c'est un échec parce que notre priorité c'était de monter. La Coupe c'était toujours la série sur le gâteau. Et aujourd'hui c'est clair qu'on ne peut plus monter. Donc c'est une grosse déception. Peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, on peut regarder en arrière avec beaucoup de fierté du parcours en Coupe, du championnat qu'on a fait. Mais aujourd'hui c'est clair, c'est une très grosse déception.
Qu'est-ce qu'il a manqué sur le second tour où il y a eu plusieurs matchs où Bienne est passé à côté à l'image d'aujourd'hui?
Je pense que d'une côté, ce parcours en coupe nous a coûté un peu d'énergie, beaucoup physiquement mais aussi mentalement. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est une équipe semi-professionnelle et les joueurs n'ont pas l'habitude de gérer ces situations comme ça. D'autre côté, un peu de réalisme. Peut-être aujourd'hui, on a eu beaucoup d'occasions, mais on n'a pas marqué un but. Eux, ils ont peut-être 4 ou 5 occasions, ils marquent 3 buts. Donc, bien sûr, on a aussi eu des blessés, mais ce n'est pas une excuse. Donc, pour moi, c'est plutôt le réalisme qu'on n'a pas eu en deuxième tour, qu'on a eu en premier tour.
À l'inverse, l'entraîneur du FC Bienne, Samir Chaibedra, refusait de parler d'échec malgré la déception.
Je ne prends pas cette montée-là comme un échec, parce que le jour où je considérais que j'ai échoué et que c'est un échec, je pense que je partirais du club. Et aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment une grosse déception parce qu'on a réussi à créer un engouement à travers l'équipe, dans la ville, dans les médias, etc. Et à redonner vraiment une place au FC Bienne dans le football suisse. Aujourd'hui, le FC Bienne était un peu aux oubliettes. Tout le monde avait oublié un peu son histoire. Et aujourd'hui, on a su redonner un peu des couleurs au FC Bienne. Et maintenant, tout le monde connaît le FC Bienne et ses couleurs. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une déception, parce qu'une montée, malheureusement, ça joue sur des détails. On le voit même dans les plus gros championnats. Et j'espère que l'année prochaine, on va réussir l'objectif de monter en Challenge League.
À noter qu'il reste encore deux matchs à jouer cette saison. La dernière journée de championnat samedi prochain face à Paradiso, sans grand enjeu. Puis la finale de Coupe de Suisse face à Bâle, ce sera le 1er juin. Les Young Boys ont préservé leur chance de finir au deuxième rang de la Super League. Les Bernois ont battu le champion Bâle 6-2 cet après-midi. Au terme d'une rencontre animée, les Bâlois restaient sur une série de 8 victoires. Et puis deux autres rencontres se jouent encore en ce moment même. Il s'agit de Servette qui mène actuellement 3-1 face à Lucerne. Quant au match Lausanne-Lugano, c'est 1-1 pour le moment. Camille Balanche commence la saison par une quatrième place. La biennoise d'adoption a terminé au pied du podium à Bielsko-Biała en Pologne en ouverture de la Coupe du Monde de descente. Il lui a manqué un peu moins de 8 dixièmes pour décrocher le troisième rang. Le Belge Wout Van Aert a remporté la 9e étape du Giro qui empruntait des passages des Strade Bianche pour s'achever à Sienne cet après-midi. Deuxième de l'étape, le cycliste mexicain Isaac Del Toro s'est emparé du maillot rose de leader du classement général du Tour d'Italie. En F1, Max Verstappen a remporté le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola. Le Néerlandais qui a pris la tête peu après le départ a signé sa 65e victoire cet après-midi en Italie. Le pilote de l'écurie Red Bull a devancé les deux McLaren de l'Anglais Lando Norris et de l'Australien Oscar Piastri. On passe au hockey sur glace avec l'équipe de Suisse qui dispute son avant-dernier match de groupe au championnat du monde. Ce soir à 20h20 à Herning, la troupe de Patrick Fischer a rendez-vous avec la Hongrie, l'un des plus modestes adversaires de son groupe. Une rencontre lors de laquelle tout autre résultat qu'une victoire serait un cuisant échec. Indépendamment du résultat, les Helvètes doivent en profiter pour emmagasiner de la confiance et améliorer davantage encore leur jeu de puissance. L'attaquant jurassien bernois Grégory Hoffmann en est conscient.
Absolument. Je pense que c'est des moments très importants. Maintenant, voilà, il y a eu aussi Ishii qui s'est blessé. Les lignes ont été remises un peu aussi au powerplay. Et je pense que voilà, la ligne à André Gatto-Malguin, il nous crée beaucoup de danger en powerplay. Et il faudra sur comment encore améliorer tout ça.
Dans les rangs adverses, on ne semble pas se faire trop d'illusions, à l'exception d'un succès contre le Kazakhstan, son premier en 9 ans dans le temps réglementaire au Mondial. La Hongrie a enchaîné les corrections. Dernier en date, vendredi soir, avec un 8-2 concédé contre le Danemark. Son entraîneur assistant, Balázs Bartalis, passé par Lausanne ces deux dernières années, sait que le défi sera de taille.
Je m'attends à ce que la Suisse ait le contrôle la plupart du temps. Nous devons vraiment bien défendre et miser sur des transitions rapides, sur des contre-attaques rapides. Ce sera un match défensif avant tout de notre part et j'espère que l'on n'encaissera pas trop de goals.
Un dossier réalisé par notre envoyé spécial au Danemark, Christophe Moreillon. La Suisse et la Hongrie s'affrontent donc ce soir au championnat du monde. Coup d'envoi à 20h20 à Herning. Un point météo avant de refermer ce journal. Ce soir et cette nuit, le ciel restera relativement clair sur la région. Demain, lundi, le temps s'annonce bien ensoleillé, le matin surtout. Ce sera plus nuageux l'après-midi. Dès la fin de journée, quelques gouttes ou orages ne sont pas exclus. Ils pourront d'ailleurs se poursuivre durant la nuit. Côté température, on attend 21 à 22 degrés au mieux. Même type de temps pour les jours qui suivent avant l'arrivée d'une perturbation attendue pour jeudi. Voilà qui marque la fin de ces informations. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'RJB.